Vous écoutez Active Sainté Night Club, l'émission des supporters des Verts.
Active
Sainté Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Hugo.
Et bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 136e Sainté Night Club. J'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde a passé un bon week-end et bien attaqué sa semaine. J'ai dû vous abandonner la semaine dernière car j'étais bien malade, mais normalement ça va mieux. Et je pense quand même que j'aurais préféré débriefer le match précédent. Mais bon, on va quand même débriefer celui-ci. Nouveau SNC donc, et je suis quand même très très content de vous retrouver. Que vous écoutiez l'émission en live, en replay ou en podcast, ça nous fait très plaisir de vous voir toujours aussi nombreux. Votre soutien est toujours aussi important, donc merci pour ça. Si vous êtes habitué à écouter notre émission, ou même si c'est la première fois, n'hésitez pas à suivre la chaîne sur la plateforme que vous utilisez et à aimer la vidéo, ça nous est toujours utile pour savoir comment marche le SNC, c'est très appréciable. Pour parler météo un peu, Kevin, que l'on salue, disait la semaine dernière qu'après la pluie vient le beau temps. Eh bien, je crois qu'on peut dire que la pluie est revenue, seulement le temps d'un week-end, on l'espère, hein, mais elle s'est bien installée sur l'île de Beauté pour le match de Nevers. Une défaite à analyser, petite douche froide, hein, ça faisait bien longtemps que ça ne nous était pas arrivé. On va donc quand même passer une heure ensemble, comme chaque lundi soir, pour débriefer cette rencontre. Et pour ce soir, on a deux super chroniqueurs pour m'accompagner. On a tout d'abord Antoine. Salut Antoine, comment tu vas ?
Ben écoute, ça va mieux, ça va mieux. J'aurais préféré moi aussi être là la semaine dernière pour débriefer la victoire contre Concarneau, mais bon, on fait le boulot, on est là, on est présent et on va tenter de comprendre ce qui s'est passé à Ajaccio ce week-end.
Ouais, une petite défaite à débriefer, ça change un peu. Et pour accompagner Antoine et pour m'accompagner moi, on a Elias aussi. Salut Elias, comment tu vas ?
Salut Hugo, salut tout le monde. Ouais, ça va, ça va. J'aurais préféré aussi débriefer une victoire. J'étais plus trop habitué à débriefer les défaites, mais bon, on va devoir faire le taf ce soir.
On va le faire ce taf. Et au chat, on a ce bon vieux Karl. Salut Karl, tu vas bien ?
Bonsoir Hugo, bonsoir les gars, bonsoir le chat. Oui, ça va, enfin, ça pourrait mieux aller, mais surtout que j'étais en plus hier au stade pour voir les féminines face à Lyon. Mais on espère dès samedi se relancer à Geoffroy Guichard.
Ouais, spectacle pas plus fameux que pour les hommes du côté des femmes. Mais oui, comme tu l'as dit, on espère que ça va être mieux le week-end prochain. On en parlera plus tard dans l'émission, mais tout de suite, avant tout, place au débrief de ce match.
Active Sainté Night Club, le débrief.
Le 3 février, j'ai dire une date pour commencer, plus de 2 mois que Nevers n'avait pas perdu un match de championnat. C'était face à Dunkerque, on les croyait invincibles, que rien ne pouvait leur arriver. Et il aura finalement fallu un petit voyage en Corse, une prestation décevante et un arbitre qui porte souvent la poisse à Sainté pour que nos Verts retombent dans leur travers. Défaite 2-0 face à Ajaccio donc, alors que les joueurs d'Olivier Dalloglio étaient sur 8 matchs sans défaite. Mais comme on dit, toute bonne chose a une fin et donc toute série de victoires en a une aussi. Cela faisait quand même quelques matchs que les prestations de Nevers n'étaient pas toujours forcément abouties. On les sentait parfois pas forcément ultra dominants, mais à chaque fois quand même, ils parvenaient à s'en sortir et à gagner quelques points. Antoine, cette fois-ci, même si ils n'ont pas été aidés par l'arbitrage, on en parlera juste après, les Verts n'étaient pas vraiment au niveau pour empêcher les 3 points. T'en penses quoi, toi, de leur prestation face à Ajaccio ?
Oui, c'est sûr que c'est un match raté dans les grandes largeurs, hein, de la part des Stéphanois, de la part des hommes d'Olivier Dalloglio. Certes, il y a eu l'effet d'arbitrage, on va y revenir sur tout ce qui s'est passé autour de ce penalty sifflé, à quel point ça nous met dedans alors qu'on était déjà un petit peu en difficulté. Mais penalty par penalty, la SS doit être capable de fournir une meilleure performance. On savait qu'il risquait d'y avoir un moment où on allait être déçu dans cette fin de saison. C'était difficile d'imaginer les Verts remporter tous leurs matchs jusqu'à la 38e journée et monter en Ligue 1. Voilà, il y a eu un coup d'arrêt. Hein, c'est un vrai rappel à l'ordre quand même, parce que en plus de la défaite, on a eu une très mauvaise prestation. On a eu pas mal de joueurs qu'on attendait au tournant qui n'ont pas su répondre présent. Et là, on est tout de suite dans le vif du sujet. Là, il y a Angers qui est en train de jouer en ce moment. En fonction du résultat, la SS pourrait perdre sa deuxième place. Et tout de suite, la semaine prochaine, il y a un choc en plus à venir contre Bordeaux. Voilà, là on est dans le dur, on est dans le sprint final. Il y a eu le carton jaune qui a été distribué, c'est la défaite face à Ajaccio. Et maintenant, la prochaine erreur, ça pourrait bien être un carton rouge.
Oui, on va être vigilant d'ailleurs à ce match d'Angers là qui est très important quand même pour la deuxième place. On y reviendra plus tard dans le tour des stades. Elias, toi aussi déçu un peu de la prestation des Verts et comme le dit Antoine, carton jaune, faudra pas faire une deuxième erreur comme celle-ci.
Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, là, ça faisait deux matchs depuis le retour de la trêve, là, donc Valenciennes et Concarneau, où on gagnait, mais les prestations, elles n'étaient pas abouties. Et en fait, on est sur la continuité un peu dans le contenu des deux autres matchs précédents, sauf qu'on avait affronté deux candidats au maintien, et même Valenciennes qui est déjà relégué en national. Et là, on a affronté une équipe qui était un peu plus haut classement, plus compliquée à manier. Et on a vite vu les limites stéphanoises. Alors, comme l'a dit Antoine, on espère que c'est juste un carton jaune et qu'on va vite se ressaisir parce que là, on a un enchaînement de prétendants de bonnes équipes de Ligue 2 sur le papier. Donc, il va falloir vite réagir.
Non, c'est sûr. Et carton jaune, mais surtout carton rouge pour Thomas Monconduit. C'est l'arbitrage qui a beaucoup été critiqué lors de ce match et qui a été sujet à débat. On peut en parler quand même d'un arbitrage décevant, un pénalty sifflé en faveur des Corses pour une main inexistante quand même de Bouchoirie qui nous met dedans. Puis donc ce carton rouge ultra sévère pour Thomas Monconduit à cause d'un simple croc en jambe. La prestation de Monsieur Le Gars fut plutôt déplorable quand même, et c'est d'ailleurs le même arbitre, pour rappel, qui avait officié lors de la première journée du championnat contre Grenoble et qui avait sifflé un hors-jeu imaginaire sur un but refusé à Wadji. Bon, on le dit souvent et on le sait, faut pas uniquement se cacher derrière l'arbitrage, mais quand même, Elias, pour toi, est-ce que la prestation de Monsieur Le Gars a vraiment déterminé la rencontre? Où la défaite reste sur le papier logique.
Moi, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage, et puis franchement, on peut pas dire que cette saison on a eu un arbitrage contre nous, on va dire. On a eu certains matchs où il y a eu des décisions favorables à notre encontre. Là, ça a été des décisions plutôt défavorables à notre encontre. Bah, c'est surtout le penalty parce que l'ouverture du score, elle conditionne pas mal de choses, même si elle intervient qu'à la 20e minute et qu'il y a eu. Il n'y a rien eu côté Stéphanois sur les 20 premières minutes. On a même été en grande difficulté, moi j'ai trouvé. Et puis en fait, il y a quelque chose aussi qui me dérange avec cette équipe. Alors peut-être que le chat me reprendra, vous me reprendrez les gars si je dis une bêtise. Mais il me semble que cette saison, à chaque fois qu'on a été mené, on n'est jamais revenu au score. Et je crois que même on a perdu à chaque fois qu'on a été mené. Donc ça laisse à penser qu'on a quelques faiblesses peut-être mentales pour revenir au score, pour passer ce cap, pour manœuvrer les adversaires qui mènent face à nous. Donc, je parlerai plus de ça que de la prestation de l'arbitre. Alors oui, il y a eu une erreur sur le penalty, oui, il y a eu une erreur sur le carton rouge qui est fou, quoi. C'est inconcevable d'avoir un carton rouge sur cette situation. Il y a eu deux, trois décisions litigieuses, notamment sur Mboukou, je trouve qu'il a été mal arbitré sur certaines situations. Mais bon, ça fait partie de la Ligue 2, il n'y a pas de VAR en Ligue 2, voilà, on le savait, on a eu quelques décisions favorables, maintenant on a eu des décisions défavorables, bah, c'est comme ça arrive.
Alors ouais, c'est intéressant ce que tu avances là sur le fait qu'on soit jamais remonté au score. Je saurais pas confirmer tes propos, mais c'est bien possible. Mais en tout cas, au niveau mental, on en avait beaucoup parlé à l'époque où on était sur la fin de l'ère Batless, donc peut-être des restes chez certains joueurs de ces faiblesses mentales. Pour venir à l'arbitrage, Antoine, t'es d'accord avec le constat d'Elias?
Oui, je trouve que depuis le début de la saison, il y a quelques fois, on a eu des décisions plutôt généreuses, d'autres fois où ça s'est un peu moins bien passé. Donc, j'ai l'impression que sur les matchs de l'ASS cette saison, ça s'équilibre un petit peu les erreurs d'arbitrage dans les deux sens. Par contre, oui, évidemment que ça change la physionomie du match. Certes, l'ASS n'était pas très bien rentré dans son match, il y avait des difficultés, on sentait que cette équipe d'Ajaccio avait vraiment envie d'enfin mettre un terme à cette série de matchs sans victoire. C'était déjà difficile, et quand c'est difficile, et qu'en plus de ça, on prend un penalty qui n'est pas justifié, ça le devient encore plus. J'aurais aimé que ça crée une espèce d'électrochoc positif dans le sens où on sent des joueurs qui soient un peu remontés contre cette décision, et qui soient comme Brest hier, les Brestois par exemple, face à Lyon, quand il y a eu ce penalty refusé. Il y a certes eu cette ouverture du score lyonnaise après, mais on a senti un groupe qui voulait se mobiliser qui était revanchard. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir une équipe revanchard après ce penalty. Il y a eu une possession de balle un petit peu stérile, mais dû à un manque d'envie, un manque de lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Et c'est plus ça que j'aimerais pointer du doigt, la réaction qu'on était censé attendre et qu'on était censé avoir de la part d'une équipe qui veut monter en Ligue 1, et ben elle n'a pas eu lieu après cette ouverture du score.
Non, c'est sûr, t'as raison. C'est vrai que ce penalty nous met bien dedans, mais les Verts avaient vraiment mal commencé ce match. Karl, au chat, je vois que ça commence à bien arriver et à discuter. Les auditeurs retiennent plutôt la prestation arbitrale, du coup, ou une défaite plutôt méritée?
Bah finalement, avec un petit sondage qu'on a fait et auquel j'invite les gens à participer via Twitch, bien sûr, la défaite est plutôt logique d'après les supporters. Évidemment, après, il y a les termes de frustration, d'inquiétude et de vol qui reviennent, mais c'est surtout un sentiment de logique qui revient et ça c'est assez, ça revient, enfin, c'est la même chose que ce qui ressort des avis des deux chroniqueurs du soir. Il y a Jo42 qui signale lui quand même que. Sans le penalty et sans les erreurs d'arbitrage, il n'y aurait quand même eu que 0-0 et ça aurait été un moindre mal. Contrairement à SSO71 qui me dit que même sans le penalty, on aurait perdu. Arbitrage défavorable samedi. Le penalty, ok, à vitesse réelle, pourquoi pas. Mais alors le carton rouge sur un croche-patte, je m'en suis toujours pas remis. Ça, c'est David qui nous dit ça. Il y a Dauphinomaniac, au contraire, qui nous dit que c'est une défaite logique. Il n'y en a pas un qui a mis un pied devant l'autre. Et avec toutes les décisions arbitrales en notre faveur, les matchs précédents, on ne doit pas se cacher derrière la nullité de cet arbitre. Ajaccio ne fait pas bon aussi. La défaite vient de la première erreur d'arbitrage, parce qu'on peut légitimement penser que le penalty injustement sifflé a pu en mettre en dedans les joueurs. C'est clair, sans le penalty, c'est pas le même match, selon Thomas sur YouTube. Et enfin, après, ça commence à parler des individualités, mais je pense qu'on y reviendra après, donc je vais m'arrêter là pour l'instant.
Oui, on en parlera plus tard, en effet. Merci, Karl. Et autre fait marquant de la rencontre, du coup, c'est quand même la blessure de Sissoko à l'échauffement, qui a ressenti une alerte au mollet, après avoir passé des examens, des résultats sont attendus, apparemment. Bon, pour illustrer l'importance de l'attaquant stéphanois, les Verts n'ont remporté qu'un seul match sans sa présence. Pire, en l'absence du Malien, seulement deux buts ont été inscrits dans le jeu par la SSE. Bon, faut espérer qu'il soit de retour vite quand même, parce qu'il s'agit sans doute du joueur le plus important de l'effectif avec Gauthier Larssonneur peut-être. Et son absence pourrait faire beaucoup de mal à l'équipe qui se lance, comme on l'a dit, dans le sprint final avec ses 6 derniers matchs à jouer. Antoine, cette absence est vraiment une terrible nouvelle. Tu crois que les Verts arriveront à bien faire sans leur attaquant?
Eh ben, ça va être très compliqué parce que Sissoko, depuis qu'il est revenu, c'est 8 matchs. Alors, il y a eu 7 matchs, il me semble, 7 matchs sans défaite. C'était vraiment le nouveau talisman de cette équipe. Il est plus qu'important parce qu'il n'y a aucun joueur dans l'effectif de l'ASS qui a ce profil-là. C'est un joueur qui pèse sur une défense, c'est un joueur qui sait jouer au dos au but, qui marque des buts, qui sait faire des passes décisives. Moi, j'avais adoré ces dernières semaines son entente avec Dylan Chambaud, par exemple. On sentait une vraie complicité technique entre les deux joueurs. Et là, ça va être là, c'est sûr que c'est inquiétant. Dès qu'il n'a pas été là, l'ASS a manqué de repères en attaque, en espérant que ça soit qu'une précaution comme Olivier Dalloglio l'a dit après le match, hein, il a dit que c'était une précaution, que c'était une gêne au niveau du mollet. Il voulait pas prendre le risque. Faut espérer que ce soit ça parce que pour l'instant, la SS n'a pas su trouver de solution avec Irvine Cardona dans un rôle de numéro 9. On a senti qu'il avait beaucoup de mal à se trouver. On n'arrivait pas à le trouver. Les ballons dans la profondeur, c'était trop compliqué. Il faut espérer aussi que si ça devient sérieux, enfin si Sissoko n'est pas disponible ce week-end, qu'Ibrahima Wadji pourrait potentiellement jouer au moins une mi-temps, mais évidemment qu'on a toutes les raisons d'être inquiets si jamais cette blessure vient lui faire manquer un ou deux matchs.
Elias, toi aussi, t'es inquiet concernant l'absence plus ou moins longue, on ne sait pas encore, de Sissoko?
Okay, oui, parce qu'il a un profil assez unique et puis on l'a vu ce week-end. Moi, je trouve qu'il a manqué comme le disait Antoine, c'est quelqu'un qui garde bien les ballons dos au but, qui sert de point d'appui, qui pèse sur les défenses adverses. Et en fait, samedi, on a beaucoup usé de ballons longs. On a eu beaucoup de déchets sur ces phases de jeu-là parce qu'Ajaccio nous imposait un pressing assez haut et que Batu Binsika, Nadé, Larssonneur, ce n'est pas les meilleurs relanceurs sous pression. Donc on a beaucoup usé de ballon long et on a vu son absence, c'est-à-dire qu'on n'a pas gardé un ballon, Cardona n'a pas touché un ballon de haut but, que ce soit de la tête ou en remise dans les pieds. Ça a été très compliqué pour lui parce qu'il a beaucoup fait d'appels en profondeur, il n'a pas été servi ou mal servi. Mais moi, j'ai un peu plus au reste de l'équipe qu'à Cardona. Mais oui, on a vu que bah, Sissoko, en fait, quand il n'est pas là, on voit son absence, quoi. Alors oui, on le critique sur beaucoup de choses, notamment son investissement sans ballon à la perte, où c'est quelqu'un qui fait pas ou peu les contre-pressing, ou le pressing dès qu'il y a une passe négative, etc. C'est peut-être un joueur qui n'a pas un gros volume de jeu, il est vrai, mais voilà, quand il est absent, ben, on constate que on a eu du mal à se procurer des occasions.
Ouais, c'est sûr que son absence a vraiment été ressentie ce week-end. Et en conséquence du coup de cette blessure, Olivier Dalloglio a dû repositionner Cardona en pointe, on l'a dit, et faire entrer Mboukou sur le côté, ce qui n'était pas prévu de base. Autre choix fort du coach stéphanois, la titularisation pardon, de Bouchouari au milieu de terrain, ou encore le positionnement d'Aymen Mouefek en arrière-droit pour pallier l'absence d'Ivan Masson. Bon, ces choix n'ont pas porté leurs fruits en Terre Corse ce week-end, mais le coach s'était pas vraiment aidé du coup avec les absences des latéraux Masson, comme j'ai dit, mais aussi Appia. Elias, je vais te laisser la parole. Tu penses qu'Olivier Dalloglio aurait pu mieux faire avec les joueurs à sa disposition, ou c'était vraiment la composition à faire ce week-end?
Mieux faire, je sais pas, parce que comme tu l'as dit, il y avait beaucoup d'absents, surtout sur le couloir droit. Masson suspendu, Appia blessé. Le choix logique, je pense que tout le monde aurait mis Mouefek latéral droit. Je voyais pas d'autre option, peut-être Bentaïg en faux pied, mais je reste dubitatif sur ce choix-là. Après, oui, la surprise, c'était Bouchouari titulaire, parce qu'avec la blessure Sissoko, on s'attendait à ce que Cardona soit recentré et aime beaucoup titulaire sur le côté droit. Moi, j'ai vu beaucoup d'avis négatifs sur Bouchouari. J'ai pas trouvé qu'il avait fait un si mauvais match que ça, notamment dans l'utilisation du ballon. Je l'ai trouvé actif, même à la perte du ballon. J'ai vu faire des efforts défensifs que je n'ai pas vu d'habitude faire à ce niveau-là, je trouve. Après, j'ai trouvé que c'était plus un problème collectif dans son ensemble que des prestations individuelles mauvaises. J'ai trouvé qu'on avait eu du mal à ressortir les ballons derrière sur les relances courtes. Sur le jeu long, on n'avait pas de point d'appui, donc c'était compliqué. Ajaccio, elle nous a très bien pressé et a pris beaucoup de risques, et je trouve qu'on n'a pas pris de risques, nous, à la relance. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec leur 4-4-2, avec leurs deux attaquants, donc Ibaï et Ben Touré, qui allaient chercher nos défenseurs centraux, et leurs deux ailiers de 4-4-2, donc Saki et Barreto, qui sont allés chercher Petro et Mouefek. Et derrière, ils faisaient du 1 contre 1. Ils n'ont pas eu peur, ils sont allés chercher haut. Riyad Nouri l'a dit à la mi-temps, que voilà, c'était là un choix assumé, qu'ils voulaient prendre des risques dans ce pressing. Et en fait, ça a apporté leurs fruits. Et moi, je trouve qu'on n'a pas pris assez de risques. On a tenté de mettre Tardieu un peu plus bas à la relance pour essayer de casser des lignes, mais ça n'a pas trop marché. On a eu beaucoup, beaucoup de déchets techniques, des passes à 2 mètres qu'on a loupées, etc. Et ça nous a mis en dedans et on a eu du mal à se lancer tout le match, quoi, en fait.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Antoine, avec tout ce qu'a dit Elias, là, c'est très, très intéressant. Tu penses que bon, je vais revenir à la question de base, hein, Dalloglio aurait pu mieux faire avec les joueurs de ses mains au niveau de la composition, mais aussi, qu'est-ce qui a manqué du coup au vert? Tu les ressens comme Elias, assez faible dans la prise de risque finalement?
Ouais, bah pour le côté Mouefek carrière droit, c'est vrai que je voyais pas vraiment d'autres solutions. J'imaginais pas Petro à droite, ou j'imaginais pas Benteke à droite. Donc ça me paraissait logique, même si on savait qu'il allait terriblement nous manquer au milieu de terrain. Il a décidé de relancer Bouchouari. Je pense que son objectif, c'était de se dire, on va essayer de concerner tout le monde pour cette fin de saison, montrer que tout le monde peut être important dans les matchs décisifs, en relançant Bouchouari qui n'avait pas été titulaire, il me semble, depuis, enfin, c'était 5 ou 6 matchs, ou peut-être même plus depuis qu'il était arrivé. Ça n'a pas marché. Bouchouari, il a prouvé que, certes, il y avait un peu d'investissement, mais dans le contenu global, c'était à l'image de celui de l'équipe. Hein. C'était trop suffisant. Il y avait très peu de créativité. Et comme l'a très bien dit Elias, c'est vrai qu'on a eu une équipe de santé qui a eu peur un petit peu. À aucun moment, on s'est dit, OK, on va prendre le risque de monter à plus nombreux. Tardieu a été très bas sur ce match-là. On n'a pas beaucoup vu Chambaud qui s'est vraiment caché. C'est vraiment caché ce week-end. Et
Et qui a
pour le reste,
perdu
souvent
beaucoup de ballons aussi.
qui a perdu beaucoup de ballons. Il y a eu en plus de ça, il y a eu un gros déchet technique global hein, sur toutes les offensives. Souvent, on a retrouvé du Cafaro, beaucoup un petit peu trop brouillon. Cardona, on l'a dit, c'était compliqué. Lui, pris un petit peu entre les deux défenseurs centraux. On n'a jamais vraiment réussi à le trouver. Mais voilà, il y a eu un. C'était globalement tout. Il manquait tout dans ce match. Il manquait de la prise d'initiative, il manquait du courage, il manquait un petit peu d'envie chez certains. Il manquait de la qualité technique. Donc voilà, c'est vraiment une après-midi compliquée pour les Verts. Et c'est exactement l'exemple parfait de ce qu'il faut plus faire maintenant. C'est un petit peu c'est un tableau noir de ce qu'il faut pas faire pour cette fin de saison.
Ouais, bon, moi, au moins,
Et puis,
ça. Ouais, vas-y.
ouais,
Vas-y.
désolé Hugo,
Pas de soucis,
au-delà
vas-y.
du déchet technique, etc. Mais je trouve qu'il y a eu un manque d'agressivité, mais de la bonne agressivité. En fait, j'ai l'impression Ajaccio a usé de jeu direct aussi, et on est un peu tombé dans leur piège, on a fait pareil. Mais eux, ils ont remporté tous leurs duels de la tête. J'ai eu l'impression qu'Ibaï, il a pris le dessus sur Batoubensika, il a pris le dessus sur Nadé, que Ben Touré, avec ses appels, sa vivacité, il leur a fait mal aussi. Ils ont mis beaucoup d'impact au milieu. Je trouve que Jabol Foccarelli, il a complètement éteint Chambost pendant au moins une bonne heure, voire plus. Et en fait, on n'a pas eu de répondant. Et c'est ça qui m'inquiète un peu avec cette équipe. C'est que j'ai l'impression, dès qu'elle est poussée dans ses retranchements, elle a du mal à se faire violence. Et ça, c'est plus un problème collectif de tout le groupe que des individualités qui ressortent, je trouve.
Et puis, juste pour rajouter là-dessus, il y a une initiative criante parce que on regarde la possession de balle, c'est 66% de possession de balle pour la SS. C'est quasiment deux fois plus de passes avec une meilleure précision dans les passes en plus qu'Ajaccio. Et pour autant, on n'a jamais senti qu'on était capable de faire la différence. Donc, être ballon au pied, être à ce point-là peu entreprenant, c'est ça qui m'a vraiment inquiété.
Non, c'est sûr, et il faudra faire mieux contre des adversaires de plus haut niveau, tout simplement. Et pour rester sur la prestation individuelle des joueurs, avant de passer au chat, pardon, messieurs, au niveau de vos top et flop, bon, j'imagine qu'il y aura plus de flop que de top, étant donné la prestation de l'ensemble de nos verts. Mais peut-être que le match réalisé par certains des joueurs vous ont particulièrement sauté aux yeux, vous ont semblé particulièrement décevant, ou au contraire que dans cette défaite, un joueur vous a peut-être malgré tout plu. Elias, toi, je vais commencer par toi. Est-ce que tu as des joueurs qui t'ont particulièrement déçu ou éventuellement qui t'ont plu, même si j'ai plus de doutes?
Alors sur le plaisir, non, franchement, il n'y a personne que je trouve qui est ressorti vraiment au-dessus. Après, j'ai eu des petites déceptions. Alors par exemple, je vais mettre quelqu'un comme Gauthier Larsener en déception, mais il nous a tellement... Je peux rien lui reprocher parce qu'en fait, il nous a tellement sauvés cette année. Si on en est là, c'est en partie, en grande partie grâce à lui. Mais en fait, on voit qu'il a quand même quelques limites, notamment dans les relances. Dès qu'il est sous pression, il dégage parce qu'il a un jeu au pied assez faible. Pareil, Toubinsika, il a usé de jeu long, mais ça finissait tout le temps en sortie de but, il visait personne. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie de prendre de risques derrière, et moi, j'aurais aimé qu'ils prennent des risques parce que le pressing ajaxien nous aurait permis, avec un peu plus de courage, de créer des décalages et d'aller vite vers l'avant et trouver Mboukou et Cafaro, peut-être dans des meilleures situations de 1 contre 1 qu'on les a trouvés. Comme l'a très bien dit Antoine, on a eu une possession stérile. Mais on n'en a rien fait, on faisait des passes, Batoubensika, Nadé, Tardieu, et puis hop, on joue long, et puis hop, on fait une mauvaise passe. Et en fait, on ne s'est jamais mis dans le rythme de la partie, je trouve. Et c'est un peu le résultat aussi des derniers matchs, parce que contre Valenciennes, on avait fait une première mi-temps assez moyenne, mais on avait mis deux buts, on s'était mis à l'abri, la deuxième mi-temps était très quelconque. Et contre Concarneau, je ne nous ai pas trouvé si entreprenant que ça. On marque sur une grosse transition, et derrière, Concarneau a fait le jeu, Concarneau a eu des situations, etc. Ah oui, on était très solide défensivement. Et là où je suis inquiet, par contre, c'est qu'on a été très très fébrile sur les coups de pied arrêtés. Hein. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Les deux buts viennent de deux coups de pied arrêtés, deux corners. Et il y a eu d'autres situations dangereuses contre nous.
Ouais, non, bien sûr, c'est clair qu'il y a beaucoup de points à améliorer. Toi, Antoine, est-ce que tu as des joueurs qui t'ont particulièrement inquiété peut-être dans ce match?
Moi, j'ai été déçu par la prestation de Bouchouari. Hein. Elias, tu étais un petit peu plus clément, je vais être un peu plus dur avec lui. J'en attendais beaucoup de son retour. J'attendais un joueur en char, un joueur qui a une véritable envie de prouver à son entraîneur qu'il est capable de venir décrocher une place de titulaire ou au moins décrocher un peu plus de temps de jeu dans cette fin de saison. Et il est passé à côté. J'ai été déçu par Petro aussi, Petro, mine de rien, dans ce couloir gauche. On sent qu'offensivement, c'est quand même très, très, très limité. On le savait déjà. Hein, ça, c'est pas une surprise. C'est plutôt un joueur qui va être dur sur l'homme derrière. Mais du coup, dès qu'il faut amener un peu de soutien devant, ça devient très compliqué. Et pour le reste, globalement, peut-être Batu Binsika, qui dans les duels aériens, comme tu l'as dit, Elias, on s'attendait un petit peu plus de sérénité. Nadé s'est plus démarqué. J'ai trouvé un Nadé plus serein durant cette rencontre. Et voilà, mais les deux points noirs de cette rencontre, pour moi, ça a été vraiment le match de Bouchouari qui faisait son retour dans le 11 de titulaire et Léo Petro qui n'arrive pas à combiner avec Cafaro. On sent qu'il n'y a pas de complicité technique entre les deux hommes. Hein. Des fois, on a l'impression que Cafaro n'ose même pas vraiment revenir avec lui, jouer sur une 2, préfère tenter un exploit individuel plutôt que de chercher une combinaison.
Par
Ça
contre,
marche,
je
ouais.
vais juste rajouter
Vas-y, Elias.
un truc, mais j'aurais jamais cru dire ça cette saison surtout. Mais on a ressenti l'absence d'Ivan Masson quand même. Parce
Bah oui, c'est
que
sûr.
franchement, par rapport aux dernières performances, c'est plus lui qui nous a beaucoup manqué, je trouve. Avec bah, Sissoko nous a manqué. Mais je trouve que l'influence qu'a Ivan Masson sur cette équipe, que ce soit offensivement et défensivement, et même dans une certaine agressivité qu'il apporte, parce que c'est quelqu'un qui met beaucoup d'envie dans tout ce qu'il fait. Alors oui, des fois, il y a beaucoup de déchets, etc. Mais il y va à fond dans tout ce qu'il fait. Et je trouve que ça nous a manqué contre Ajaccio, quelqu'un qui apporte du répondant par rapport à l'agressivité des adversaires.
Non, c'est clair et on en parlera plus tard puisqu'il va être de retour face à Bordeaux, donc c'est quand même une carte intéressante. Karl, je viens enfin vers toi au niveau du chat. Est-ce que les auditeurs retiennent certaines prestations individuelles de la part de nos Verts?
Alors écoute, sur YouTube, il y a Jimmy qui je vais vous raconter pas mal de choses qu'il nous a dit à propos des prestations individuelles. Beaucoup critiqué Sissoko. J'ai toujours dit que Sissoko est d'une importance extrême car il mobilise deux défenseurs et permet à Cafaro et Cardona de toucher des ballons dans les bonnes zones. Selon lui, Bouchouari est devenu la tête de turc de beaucoup alors qu'il a fait un match plutôt honorable. Il continue en disant qu'en mettant Moueffec à droite de la défense, le coach a affaibli le milieu et ça revient pas mal aussi sur Twitch. Et je vais y revenir. Sans Aipsan Imasson, le niveau technique de la défense chute drastiquement, sans compter que les associations de paires des latéraux avec Cafaro et Mboukou deviennent quasi inexistantes. Sur Twitch, concernant l'absence de Sissoko, il y a Napsanté qui nous dit que c'est dommage de ne compter que sur un seul neuf dans un sprint final. Sans même un jeune, c'était trop risqué de se présenter à Ajaccio comme ça. Moueffec au milieu est indispensable, c'est les jeux 42. Petro en prend pour son grade, mais ça c'est assez régulier. Il y a Jo qui continue, et ça c'est Leïla qui nous disait la même chose, c'est que sans Masson et Sissoko, eh ben, l'équipe n'est plus du tout la même. Au milieu, il faut du physique, les Bouchouari et Tardieu n'ont pas leur place, ça c'est pour Céline. Vivement les retours de Masson et Appia, car Mouefek bof en latéral, Petro retourne prendre ta place sur le banc. Mouefek est notre meilleur milieu de terrain. Le problème du coach a été de pallier aux absences du mercato d'hiver avec des joueurs recrutés en été et qui n'ont pas un niveau suffisant pour avoir de l'impact et de la technique à la fois. Dans les flops, évidemment, il y a l'arbitre. Il y a Chambaud qui crispe un peu le chat. Et alors, c'est une fois n'est pas coutume parce que toutes les semaines précédentes, le chat était dithyrambique à son encontre. Napsinté qui met Larsonneur en top malgré tout. Et en flop, Mboukou. Alors, ça, c'est assez surprenant. Et Chambaud, Petro et Mouefek. Tardieu en flop également pour Vert 85. Top l'entraîneur Corse qui a tout compris. Flop les milieux et Cafaro, ça, c'est dauphinomaniaque. Et enfin, Cardona se démène devant, mais il est bien seul. Ça, c'est Elcato 42. Voilà.
Merci Karl, merci, merci le chat. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission, c'est une fin de série du coup de victoire pour Nevers, donc de plus de 2 mois donc et de 8 matchs sans défaite. Il ne va pas falloir pardon rester sur cette défaite si on veut assurer ce top 2, car derrière mine de rien ça se rapproche et on y viendra juste après dans notre tour du championnat. Mais surtout, comme on l'a dit plusieurs fois dans le jeu, les dernières prestations sont plutôt mauvaises. Hein. Sur les derniers matchs, ce n'est pas toujours fameux, même si on parvenait à chaque fois à grappiller quelques points. Là, la réalité nous rattrape. Hein. Et les prochaines rencontres sur le calendrier, je vais vous le mettre tout de suite à l'écran. Les rencontres, ça tombe peut-être un peu plus difficile, puisque ce sont des équipes un peu plus du haut de tableau que l'on va affronter. On va en parler dans le prochain match aussi. Et ça va commencer dès ce week-end face à Bordeaux. Antoine, avant d'aborder tout ça, est-ce que tu penses, est-ce que tu crois que les Verts sont capables de rebondir rapidement et de vite faire oublier cette défaite?
Avant de penser et de croire, je vais espérer surtout qu'ils sont capables de relever la tête, parce que Bordeaux, c'est une équipe qui va quand même pas très bien, hein. C'est une équipe qui vient de perdre à domicile contre Bastia, qui a fait une défaite contre Annecy il y a 2 semaines. Non, c'est pas une équipe qui va très bien. Nous, je vais essayer de croire aussi que c'était vraiment une erreur par contre ce match face à Ajaccio, même si on a eu des inquiétudes face à Concarneau. La seconde période face à Concarneau, c'était pas la plus rassurante de l'histoire. Il y a quelques inquiétudes, mais je pense qu'on devient plus inquiet plus la fin de saison approche et plus on se rend compte que cette montée, elle est possible, elle est là, elle nous tend presque les bras, j'ai envie de te dire. Mais oui, je reste assez confiant. Je me dis qu'avec un retour de Mouefec dans le milieu de terrain, ça sera pas la même équipe de Saint-Étienne. Il apporte beaucoup d'impact, Mouefec. Il va faire vraiment beaucoup de bien. Thomas Monconduit, c'est son carton rouge, vient d'être annulé. On a vu que c'était plus du tout le même joueur depuis qu'il était là sous Olivier Dalloglio. Voilà, c'est des joueurs qui nous ont manqué dans ce match face à Ajaccio, que ce soit dans l'impact physique comme Mouefec ou que ce soit dans la qualité technique comme Monconduit. Et encore plus si Sissoko revient. Ça nous permettrait d'avoir ce point d'appui devant, d'avoir cette relation qu'il a développée avec Cardona notamment, d'avoir un duo ou Cafaro ou Mboukou sur le côté, chacun leur tour, qui amène beaucoup de percussions. Donc voilà, je reste assez serein, mais c'est sous condition, c'est sous toutes ces conditions-là. C'est les retours au milieu de terrain, c'est le retour de Masson dans son couloir droit avec tout ce qu'il nous apporte depuis qu'il est revenu à Saint-Etienne. Et voilà, surtout notre ami Brahim Sissoko devant qui fait terriblement de bien, et son absence a été plus que préjudiciable.
Elias, toi aussi, t'es confiant comme Antoine si jamais tous ces joueurs reviennent sur le terrain?
Oui, confiant, faut l'être. On ne peut pas balayer d'une main, d'un revers, tout ce qui s'est passé avant le match d'Ajaccio. On restait quand même sur 8 matchs sans défaite, 8 clean sheets, on n'avait pas pris de but, etc. Donc après, oui, ça fait 2 voire 3 matchs où on est, je trouve, suffisant et que notre jeu est insuffisant. Et donc, va falloir mettre les bouchées doubles parce que là, c'est un sprint final super intéressant, super avec beaucoup de suspense, etc. Et en fait, tout le monde a envie qu'on monte. Donc, va falloir redoubler d'efforts et pas laisser passer cette occasion parce que. Finir en barrage, je pense que ce serait une grosse déception. Après, oui, vu nos débuts de saison, ce serait peut-être une satisfaction et ça nous laisserait un mince espoir de monter. Mais tout le monde croit et tout le monde a envie de la monter directe. Donc voilà. Après, le calendrier, c'est ce qu'on disait juste avant l'émission en off. Je trouve que le calendrier est dur pour tout le monde à peu près parce que cette Ligue 2, elle est très homogène, mais pas dans un bon sens. Je le dis émission après émission, mais j'en pense pas moins aujourd'hui. Et voilà, le calendrier est difficile pour tout le monde. On voit Auxerre qui perd des points contre QRM. Donc voilà, il faut s'attendre à tout sur cette Ligue 2. Et c'est l'équipe qui va être la plus régulière et qui va avoir le plus d'envie qui va monter à la fin.
Et justement, on va faire ce petit tour du championnat habituel, et notamment faire le point sur les résultats des principaux concurrents des Stéphanois ce week-end. Bon, vous l'avez un peu dit, et contre toute attente, les résultats s'avèrent finalement pas si plutôt favorables en fait, pas si mauvais au vert, puisque Auxerre du coup a perdu 4-3 contre Quevilly, Laval a chuté à domicile 3-0 face à Annecy. Finalement, quand on regarde le classement, ce sont plutôt le Paris FC et Caen qui reviennent à toute vitesse. Les deux équipes sont respectivement, pardon, à 5 et 6 points des Verts après leur victoire, donc 2-1 contre 3 pour le Paris FC et 1-0 contre Rodez pour Caen. Autre concurrent, Angers, qui est actuellement en train d'affronter Grenoble, du coup, et d'ailleurs il y a 0-0 à la mi-temps, il me semble. Elias, j'ai testé la main, il reste 6 matchs du coup pour les Verts qui sont à 7 points d'Auxerre. Derrière, ça se rapproche un peu, je l'ai dit, 6 et 5 points pour le Paris FC et pour Caen. Pour toi maintenant, bon, faut rester focus sur soi-même, ça va être vraiment une course contre soi-même finalement, grappiller le plus de points possible. Mais faut plutôt faire attention à derrière ou plutôt continuer de chasser devant. On parlait des chasseurs, on a beaucoup entendu ce mot dans la presse ces dernières semaines. T'as un avis sur la question?
Moi, je trouve qu'Auxerre est quand même un peu loin. 7 points à 6 journées de la fin, je trouve ça fait un peu beaucoup. Après, il suffit d'enchaîner 3-4 victoires et on met la pression sur tout le monde, comme on l'a fait avec nos 8 matchs consécutifs sans défaite. Là, on voit qu'il y a un petit gap, moi je trouve, qui s'est créé quand même entre le Paris FC, Laval et nous et Angers. Donc peut-être une mute à deux avec Angers, je ne sais pas. Il y a des rencontres, il va y avoir des rencontres directes entre tout le monde, quoi. C'est-à-dire que nous, on va jouer Caen, on va jouer Rodez, on va jouer Guingamp. Il suffit que c'est des matchs un peu ce qu'on appelle des matchs à 6 points. C'est-à-dire que si nous, on prend les 3 points, on empêche aussi nos adversaires de prendre les 3 points. Mais si on perd, ben, eux, ils prennent 3 points et ils nous empêchent de prendre 3 points. Donc, ils peuvent plus vite revenir, etc. Ça va être très très serré jusqu'à la fin. Ça va être l'équipe la plus régulière qui va y arriver, quoi.
Non, c'est sûr, il y a beaucoup d'affrontements directs en fait entre les concurrents à la montée. Antoine, tu en penses quoi, toi? C'est d'accord avec Elias, ça va vraiment être important, ces duels entre équipes de haut classés, parce que vrai, finalement, on le voit, il y a un peu d'écart au classement, mais finalement, c'est vrai qu'une victoire contre un concurrent direct, ça creuse tout de suite plus l'écart.
Ouais, je me dis que si on arrive à gérer ces 2 matchs qui arrivent face à Bordeaux et Grenoble, donc 2 équipes où à Bordeaux où on va jouer à domicile, c'est une équipe qui va très mal. Grenoble, vu la physionomie de la saison, je pense qu'on va quasiment jouer à domicile là-bas. Si on arrive à enchaîner ces 2 matchs avec des victoires, on va pouvoir se présenter sur les 4 derniers, je pense, dans la course pour la seconde place, sans avoir regardé derrière. C'est vraiment, je pense que c'est 2 matchs en une semaine qui arrivent. Si on les négocie bien, on sera définitivement placé pour jouer la deuxième place face à Angers. Pourquoi pas face à Auxerre si Auxerre se fait rejoindre. Mais c'est vrai que ça reste une Ligue 2 qui est toujours aussi équilibrée. Auxerre qui semblait intouchable, se faire surprendre à ce point-là, dans un match un peu dingue contre Quevilly qui était pour ce long. On s'attendait à aucun moment à voir Quevilly faire une telle performance. On a le PFC qui revient bien. Le PFC, ça va être un des arbitres de cette fin de saison. Ils vont aller à Angers puis recevoir Auxerre. Ou l'inverse, plutôt. Ils vont recevoir le PFC, ils vont recevoir Angers et aller à Auxerre. Il y a des matchs difficiles pour tout le monde. Il y a Pau qui revient bien, qui va jouer contre Angers. Mais bon, moi vraiment, ce que je me dis, c'est ça. On a une semaine, il y a deux, enfin 4 jours, 5 jours avec 2 matchs. Très très important pour la suite de la saison. Si on vient à remporter ces 2 matchs, je pense que ça mettra un coup moral à tous ceux qui sont derrière à partir de la 4e place. Et ils se feront une petite lutte à 3, 4, 5 équipes pour les places de la 4e et la 5e place des barrages. Et nous, à nous de mettre la pression sur Angers. Gardons Auxerre dans un coin de la tête sans forcément se focaliser. Mais pour l'instant, la guerre, pour moi, elle va se faire surtout avec Angers.
Ouais, surtout avec Angers, on va être vigilant du coup à leur match de ce soir, mais c'est vrai qu'Angers, on les sent un peu plus fébriles ces derniers matchs, en espérant que ça dure jusqu'à la fin de la saison. Mais quand on regarde d'ailleurs le calendrier, je vais le remettre à l'écran, les matchs de peut-être d'Angers peut-être semblent un peu plus abordables peut-être que les nôtres, et encore ça se vaut. En tout cas, on verra bien, on va venir tout de suite au prochain match. Puisque, comme vous l'avez dit, messieurs, ça va falloir redémarrer tout de suite dès ce week-end face à Bordeaux. Mais avant cela, Karl, au tchat, je vais te laisser la main. Est-ce que les auditeurs voient les Verts finir en deuxième position?
Alors écoute, il y a déjà par rapport au match, parce qu'on a déjà un peu évoqué le match de Bordeaux, mais il y a l'inspecteur qui note, et ça rejoint un peu le calendrier chargé qui nous attend, qui note que Saint-Étienne est toujours meilleur face aux bonnes équipes. On l'a vu face aux concurrents directs, Auxerre, Angers, Laval, etc. Il faut gagner les 6 matchs, ça c'est pour Jimmy Rieffer. Il faut 5 à 7 points sur les 3 prochains matchs, ça c'est pour Olex. Ça c'est pour la partie YouTube. Il y a Jo42 dans le même sens qui abonde et qui dit il faut gagner les 3 matchs. Attention à Bordeaux, ils mettent des buts quasiment à chaque match et nous en ce moment offensivement ça n'est pas fameux, ça c'est pour Dauphinomaniac. Ceci dit, on a le don de relancer les équipes qui ne vont pas bien, mais bon, avec Moueffec au milieu et le retour de Masson, pourquoi pas, ça c'est Leila. Bordeaux a été catastrophique contre Bastia, par contre individuellement ils sont au-dessus de ce qu'ils proposent, donc méfiance. Mais c'est vrai que là on empiète un peu sur la prochaine. Sur la prochaine section de l'émission. Il y a les Cato qui pensent, qui trouvent qu'il n'y a aucune équipe qui a 2 points par match, 10 défaites en moyenne à partir des seconds, sauf Auxerre, bien sûr, c'est affreux. Le 19e a 12 défaites, ça c'est Jo42 qui note. Si le Grenoble Foot 38 avait la bonne idée de battre Angers dans 45 minutes, ça nous arrangerait bien. Voilà.
Merci Karl, mais merci le chat. On espère donc que cette défaite restera exceptionnelle, que Angers ne s'imposera pas ce soir et qu'on repartira sur de bonnes bases dès ce week-end face à Bordeaux. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite donc dans le prochain match.
Active Synthé Night Club. Le prochain match.
Est-ce que les Verts vont savoir directement rebondir pour espérer valider cette deuxième place synonyme de montée directe? Ça serait plutôt plaisant. En attendant le résultat d'Angers, donc qui se joue en ce moment même, il est temps d'aborder la prochaine rencontre des Verts, qui sera face à Bordeaux. Les Girondins qui vivent une saison plutôt tumultueuse, on l'a dit, et qui sont dans le ventre mou du championnat, donc ils pointent à la 13e place. Ils viennent de perdre à domicile contre Bastia, en plus, 3-2. Malgré cette mauvaise saison de leur part, tout de même, ça reste une équipe qui possède des joueurs de qualité, même si ça ne marche pas forcément. Donc il faut rester quand même prudent. Mais il faudra tout de même, on l'a dit, prendre des points dès ce week-end à domicile pour toujours rester dans cet objectif de montée. En plus, le calendrier, on l'a vu, s'annonce plutôt relevé juste après, d'ici la fin de la saison. Antoine, de ton côté, est-ce que tu es optimiste? On l'a déjà un peu dit, mais concernant le prochain match des Verts.
On peut être qu'optimiste, hein. Je me rappelle j'étais à Bordeaux pour le match contre Bordeaux et Saint-Étienne à la mi-décembre. On ne savait pas du tout où est-ce qu'on allait aller. C'était le premier match d'Olivier Dalloglio, il me semble, avec une performance quelconque, un 0-0 sans intérêt. Maintenant qu'on voit que nous, on est troisième de Ligue 2, peut-être deuxième de Ligue 2 ce soir, et que Bordeaux a dû se battre pour obtenir son maintien, on ne peut qu'être optimiste pour cette rencontre. Bordeaux, je pense, a réussi à assurer son maintien. Là, ils ont 6 points d'avance sur 3. Ça me semble un matelas assez confortable pour la fin de saison. Mais c'est un match dans lequel il va falloir se méfier parce que Riera a dit qu'il risquait de faire beaucoup de changements suite à cette défaite face à Bastia. Il risque d'avoir pas mal de nouveaux joueurs dans les 11 de départ. C'est toujours assez perturbant de jouer face à une équipe des fois avec des joueurs qu'on n'avait pas vus, des joueurs un petit peu revanchards, etc. Voilà, ça risque d'être assez particulier. Après, je me dis qu'on est à domicile, qu'il va avoir un match dans un stade plein. On a vu que Saint-Étienne savait, mais ces dernières semaines, savait mieux jouer dans un stade plein, ce qui était un peu moins le cas ces derniers temps. On avait l'impression d'être un petit peu angoissé quand il y avait trop de public dans le stade. Ça reste une équipe assez en pleine crise identitaire, en pleine crise de jeu, en pleine crise de confiance. Même en interne, Bordeaux, il y a un déficit de peut-être 50 millions d'euros apparemment. Et ils ne savent même pas vraiment comment ça va se passer la saison prochaine, quel joueur va pouvoir rester l'année prochaine. Est-ce que le club va peut-être même pas être relégué administrativement au niveau de la DNCG la saison prochaine? Voilà, on a quand même de la chance d'avoir nous une équipe qui joue la montée. Et il faut surtout savoir, c'est un peu triste, mais savoir leur mettre la tête sous l'eau. Il ne faut pas du tout avoir d'état d'âme pour un club qui est dans le dur. Il y a beaucoup d'équipes qui nous ont enfoncés l'an dernier quand ça allait mal. À nous de le faire maintenant et de repartir de l'avant.
Ah, c'est sûr, t'as tout dit, c'est un club qui a des difficultés à plusieurs niveaux. Il va pas falloir hésiter, pas faire preuve de pitié pour cette équipe. Elias, t'es d'accord, t'es confiant toi pour ce match?
Ouais, je rejoins totalement ce qu'a dit Antoine. Je rajouterais juste une chose, c'est que je trouve que quand on a affronté des adversaires un peu plus faibles ces derniers temps que nous, on a fait un peu preuve de suffisance et dans le jeu. Et comme l'a dit Antoine, il va pas falloir hésiter à leur enfoncer la tête sous l'eau et voilà, et espérer relancer la machine après cette contre-performance contre Ajaccio. En plus, à domicile. Il va avoir un stade plein. Là, c'est la dernière ligne droite. Faut plus avoir d'hésitation, d'inquiétude, etc. Non, non, faut tout donner et advienne que pourra. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est monter quoi, en Ligue 1. Et ça passe par Bordeaux et ça passe par une victoire.
Et concernant la composition, messieurs, parce que du coup, va y avoir sans doute plusieurs changements dans le 11 par rapport à Ajaccio. Olivier Dalloglio avait déjà effectué plusieurs changements dans sa composition ce week-end, on l'a vu. Mouéfec, donc en latéral pour pallier l'absence de Masson, le retour de Bouchoirie dans le 11. Bon, ça n'a pas vraiment porté ses fruits, mais est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux changements face à Bordeaux? Il y a Sissoko qui s'est blessé lors de l'échauffement. On ne sait pas encore, il sera sans doute quand même absent face à Bordeaux, mais on ne sait pas exactement combien de temps. Mon conduit qui a été coupé de ce carton rouge. On ne sait pas où ça en est concernant la possible annulation aussi. Il y a pas mal de joueurs qui ont été en dessous, peut-être au milieu de terrain. Je pense à Tardieu qu'on a évoqué, Petro en latéral. À côté, il y a plusieurs retours en revanche qui sont attendus. Masson qui a purgé sa suspension, du coup, et Wadji qui est vraisemblablement de retour et qui pourra postuler à une place dans le groupe. En revanche, ça semble encore un peu juste du côté d'Apia qui sera vraisemblablement de retour plutôt pour le match face à Grenoble. Elias, je vais te laisser la main. De ton côté, tu en penses quoi? Est-ce que tu as des idées ou des choix qui te font envie au niveau de la composition?
Tout va dépendre du groupe, quoi. Parce que ces dernières semaines, je trouve, on a été un peu habitué à des absences de dernière minute. Cafaro absent parce qu'il était malade. Briançon, à chaque fois qu'il y a eu des petits pépins physiques à droite à gauche. Après, Olivier Daluglio, il compose avec ce qu'il a sous la main aussi. Donc voilà, déjà le retour de Masson va faire du bien, moi, je trouve. Parce qu'il va permettre aussi à Mouefec de revenir au milieu de terrain, comme l'a très bien dit Antoine, parce que ça nous a manqué. Après avoir qui sera là, qui sera à 100%. Après, dans cette dernière ligne droite, là, va pas plus falloir avoir de petits bobos, etc. Va falloir tout donner, quitte à jouer blessé parfois, si c'est ce qu'on demande. Mais non, au niveau de la compo, on verra bien ce que nous propose le coach. Mais faut avoir une équipe de guerriers et qui mette tout son cœur pour pouvoir s'imposer et relancer la machine.
Ouais, c'est sûr, tu l'as dit, de guerrier, je pense que c'est principalement ce qui nous a manqué aussi à Ajaccio, tu l'avais dit, de l'envie, vraiment, vraiment avoir de l'envie sur le terrain. On espère qu'ils en auront plus devant leur public ce week-end. De ton côté, Antoine, tu t'attends à des changements avec tous ces retours et ces absences aussi dans la composition?
Oui, évidemment qu'il va y avoir des changements. Enfin, à moins qu'il y ait encore des blessures de dernière minute, comme tu l'as dit, ou des maladies de dernière minute, on devrait pouvoir retrouver un entrejeu un peu plus classique, un entrejeu qui a brillé ces dernières semaines avec Mouefec, avec Moncondiou, on l'espère, ou avec Chambaud et Tardieu. Tardieu, je l'avais trouvé très très bon face à Concarneau, notamment dans la récupération. Il n'avait pas été forcément très très mis en avant, je trouve, par la presse après sa rencontre. Alors, je l'avais trouvé vraiment précieux dans la récupération de balles. En défense, évidemment que Masson s'est imposé comme un titulaire indiscutable depuis qu'il est revenu, à la fois pour sa qualité technique, pour son allant offensif et pour sa grinta. Et devant, bah, inévitablement, le cas Sissoko qui va vraiment être un cas décisif de la fin de saison. Est-ce que Sissoko va pouvoir revenir tout de suite ou pas? Si oui, ça serait une très très grande nouvelle. Et après, la grosse interrogation, c'est aussi Wadji. Est-ce qu'Ibrahima Wadji pourrait pas être un petit peu notre petite surprise de la fin de saison? Est-ce qu'il pourrait pas gratter des fins de rencontre, des 30 minutes par là, des 40 minutes par là, si les blessures le laissent enfin tranquille? Et ça nous permettrait d'avoir une véritable alternative à Ibrahim Sissoko, de pouvoir pourquoi pas tenter un nouveau dispositif pour venir déranger, surprendre les adversaires sur la fin de saison, en alignant les deux hommes ou sur des bouts de match ou d'entrée. Et ça permettrait surtout à Olivier Dalloglio d'avoir un peu plus de choix, parce que pour l'instant, ses choix, ils ont surtout été contraints par les blessures, les maladies et les absences de chacun.
C'est sûr, et tu l'as dit, le retour de Wadji, si jamais il est disponible pour ces 6 derniers matchs, ça c'est vraiment vraiment une bonne nouvelle, vraie bonne nouvelle pour le groupe, hein, qu'en tant que joker de fin de match pour les 30 dernières minutes, ça peut apporter vraiment de la vitesse et quelque chose de nouveau sur le front offensif qu'on n'avait pas jusqu'à présent avec le départ de Charbonnier, même si c'est pas du tout le même profil. On a pas vraiment de neuf de remplacement. Messieurs, pour finir cette séquence prochain match, avant de passer au quiz, on va quand même jouer le jeu. Je vais vous demander votre prono, si vous en avez un. On viendra au chat juste après. Elias, de ton côté, tu pronostiques combien toi, pour ce match face à Bordeaux ce week-end?
Victoire 2-0 avec le retour d'un clean sheet et doublé de Cardona.
Un doublé de Cardona pour toi. Et de ton côté, Antoine?
Moi, je vais dire une victoire 1-0 net. Une victoire 1-0 net.
1-0
Et
net.
but de Cafaro cette fois.
Ça va. Et Cafaro pour un petit but. 2 clean sheets. Donc, d'après vous, ça serait pas mal un petit clean sheet. Ça ferait du bien pour la confiance, une victoire comme ça. Et du coup, avant de passer au challenge, Karl, de ton côté au chat, est-ce que les auditeurs sont confiants concernant le prochain match des Verts et est-ce qu'ils ont des avis concernant la composition aussi d'équipe que concoctera Olivier Dalloglio?
Alors écoute, d'un point de vue compo, les Verts battront Bordeaux si Masson revient et si Sissoko tient son rang. Ça fait quand même beaucoup de si. Après, Masson, il n'y a pas de raison qu'il soit absent. Jimmy qui nous donne sa composition avec une défense Petro-Briançon, Nadé, Masson, un milieu Monconduit, Mouéfec, Chambaud et une attaque aime beaucoup Sissoko Cardona. Donc évidemment, il faut compter sur le retour de Sissoko. Et puis Monconduit, il faut compter sur une annulation du carton rouge, ce qui n'est pas assuré du tout. Petro doit être remplaçant, il est trop limité offensivement en ce moment. On a besoin d'aller on a besoin d'Alan, pardon. Et sinon, d'un point de vue des pronostics, il y a un 2-2 pour Vert 85, une victoire 1-0 pour RSC71, 2-1 pour nous pour Arthur, 2-0 pour Joss, 1-0 pour Leila avec un but de Nadé, victoire 3-2 pour David, donc une victoire spectaculaire avec des buts de Cafaro, Cardona et du capitaine Briançon, une victoire 1-0 pour Céline, Spider Fox 2-0, et Franck qui nous dit victoire 3-2. Donc beaucoup d'optimisme dans le chat quand même. Je tiens juste à rappeler du coup, parce qu'on ne l'a pas dit et que c'est sorti juste avant l'émission, mais que les supporters de Bordeaux sont interdits de déplacement, normalement vont être interdits de déplacement à Geoffroy Guichard à cause des récents événements entre deux groupes de supporters à Bordeaux, les Ultramarines et la Northgate. Voilà, donc c'est évidemment à déplorer, surtout quand on connaît l'amitié qu'il y a entre les Magic et les Ultramarines.
C'est
Voilà.
sûr. Triste nouvelle, ouais. Merci, merci de l'information, car c'est vrai que je n'avais pas suivi. Mais en tout cas, on espère que l'optimisme du chat se transformera en réalité, hein, et que les Verts sauront rebondir pour remporter ce match et pas rester sur cette triste défaite. Merci du coup Karl, merci messieurs, mais l'émission n'est pas tout à fait terminée. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'à chaque fin d'émission, c'est l'heure du Centennial Club Challenge, un petit quiz donc de quatre questions qu'on fait à nos chroniqueurs qui représentent chacun une association, vous l'avez à l'écran. Et à la fin de la saison, le chroniqueur qui aura le meilleur ratio de points remportera l'ensemble de nos revenus pour l'asso qu'il représente et qu'il aura choisi. Antoine, de ton côté, tu peux nous rappeler rapidement pour qui tu joues?
Alors moi, je joue pour SOS Méditerranée, c'est une association qui vient en secours aux personnes, aux migrants qui se noient en mer Méditerranée.
Et de ton côté, Elias, pour qui joues-tu?
La SPA.
L'ASPA, Société Protectrice des Animaux, donc. Parfait, merci, merci pour ces informations. Donc sans plus tarder, on commence tranquillement. Et moi, j'ai l'habitude de commencer vraiment tranquillement avec un petit joueur à deviner, c'est toujours sympa. Donc dès que vous pensez avoir la bonne réponse, messieurs, vous dites votre prénom et je vous donne la parole. Pour que vous proposiez votre réponse. Attention, ça peut aller vite. Je suis né en 1980 à Blois. Formé à Menton, je commence ma carrière professionnelle à Nice à l'âge de 19 ans, club dans lequel je reste jusqu'en 2007. Cette même année, je rejoins l'ASSE, club dans lequel je reste 3 ans. Défenseur polyvalent, je peux jouer sur les deux côtés et même parfois en défense centrale. Je suis souvent en concurrence avec Mouamadou Dabo pour le poste de latéral gauche. En 2010, je quitte le Forêt pour la Grèce et le club de Panionios. Je ne lui resterai qu'un an.
Elias,
Ouais, Elias?
Fousseni Diawara,
Non. Non, non, non. Je re...
Antoine,
Ouais, Antoine?
Antoine,
Ouais.
Varro, Cédric Varro.
Ouais, Cédric
Ouais, bien
Varro,
joué.
bravo. Je n'y resterai qu'un an et je reviens ensuite en France, à Dijon en 2011, où je terminerai ma carrière en 2018. Après ma carrière de joueur, je reviens à Nice pour entraîner les équipes réserves, puis U19. Je suis Cédric Varro. Un point donc pour Antoine. Deuxième question, messieurs du quiz, avec un au plus proche cette fois-ci. La question va être toute simple. À votre avis, combien de buts ont été inscrits cette saison par l'ASSE? Et c'est du coup c'est Antoine qui a commencé à faire les enchères, à choisir.
C'est toute compétition confondue ou
Ouais,
juste en Ligue 2?
c'est sur l'ensemble. Je vais vérifier mon chiffre tout de suite, mais il me semble que c'est sur la saison. Ouais, c'est sur la saison, la totale, la saison complète. 34 matchs au
Ok.
total.
Ok. Je dirais 30. Non, 40, 42.
42 matchs pour Antoine, 42 buts pardon, pour Antoine. Elias, combien tu dis?
Je vais dire 44.
44. Et Antoine a fait un tout pile. C'était bel et bien 42 avec une moyenne
Allez.
d'1,24 buts par match. Bravo
Grand
Antoine.
bonheur.
Ouais, c'est ça, c'est 42 la Loire. Bah, bien joué, bien joué. 2-0 donc. Et sans plus tarder, on va se tourner vers le prochain match pour la troisième question. Donc, prochain match, on a dit qu'il sera contre Bordeaux. Et la dernière fois que l'on a reçu les Girondins, c'était le 10 septembre 2022, donc pour la 8e journée de Ligue 2 l'année dernière. On avait gagné 2-0 à l'époque, mais est-ce que vous sauriez me citer les deux buteurs? Messieurs, des règles, une proposition à la
Elias.
fois. Ouais, justement, c'est Elias qui commence comme il perd.
Les deux d'un coup
Une proposition chacun, donc un buteur qui marque.
Wadji.
Ouais, dit, c'est bon, un point. Antoine, est-ce que tu as le deuxième?
Comme ça, non. Non, non, ça me
Moi,
dirait comme
je
ça.
l'ai, je crois.
Vas-y, Elias.
Maçon?
C'est ça, c'est Evan Masson. Bravo. Bravo, bravo. Et si jamais il y avait eu un partout et que vous avez chacun un buteur, j'avais prévu une question qui pourrait départager. Je voulais vous demander le passeur décisif sur le but d'Ibrahim Awadji, puisque Masson avait marqué sur un mauvais dégagement de défense bordelaise. Mais est-ce que l'un de vous deux a le passeur décisif sur le but de Awadji?
Idée.
Non.
Crasso?
Non. Non, non, non.
Je m'en souviens plus alors. Non,
C'était
je sais pas.
Thomas Monconduit sur un centre en retrait.
Oh,
2-1
il
donc
était déjà
Deux-un
là.
donc pour Antoine. Et dernière question, du coup, l'occasion à Elias de recoller au score ou d'Antoine d'accentuer sa victoire. Et pour terminer, on va faire un autre au plus proche. À votre avis, messieurs, en 32 journées du coup de championnat, combien d'arbitres différents ont arbitré, la SSE depuis le début de la saison, uniquement championnat cette fois-ci? Elias, je vais te laisser le choix, soit de commencer, soit de laisser Antoine commencer. Comme t'es derrière.
Je vais commencer. En 32 journées, on a eu 25 arbitres différents.
25 arbitres différents pour Elias. Antoine, comment tu dis?
Moi, je dirais 20, 23.
23. Et bien, monsieur, vous avez visé haut parce que la réponse est 18 simplement. Et j'ai été assez surpris moi aussi
Oh.
quand j'ai fait la recherche parce que il y a plusieurs arbitres en fait qu'on a rencontrés 3 fois, dont Monsieur Lega qu'on avait eu à Grenoble et un autre match où on avait gagné d'ailleurs, je ne sais plus lequel. Mais ouais, on avait plusieurs fois des arbitres 3 fois. Donc seulement 18 arbitres en 32 rencontres. Du coup, Antoine était plus proche avec 123. Donc le point pardon va à Antoine, ce qui fait 3-1 pour Antoine. Du coup,
Bon.
bon, on arrive à la fin de cette émission, hein. Bravo, bravo messieurs et merci beaucoup pour ce Centennial Club. Merci à Karl aussi au chat et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été présents comme d'habitude. J'espère que malgré cette défaite et cette triste prestation que vous aurez pris du plaisir à nous écouter. Et on espère donc que nos Verts rebondiront dès le prochain match. Donc voilà, pa passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous d'ici lundi prochain. Et allez les Verts, hein. Ciao, ciao, bonne soirée tout le monde.
Salut tout le
Salut
monde.
tout le monde.